Oh, que je suis chanceux. Isabelle Ducharme va passer l'heure avec moi. Oui, on parle de tourisme, de loisirs, avec la présidente du conseil d'administration de Kiroule.
Accès libre avec Luc Fortin.
Et le Big Brother Jean-Sébastien Laliberté, qui est né en 1984. Alors que les littéraires comprennent la référence, il y a Catherine Bourderon qui est à la recherche de cette émission, Christiane Campagnat au web. Et je le disais, Isabelle qui est avec moi, Madame Ducharme, heureux de vous retrouver.
Mais pareillement, ça fait longtemps.
Ça va très très bien, tes roues sont graissées, moi mon Perrier est tout à côté de moi. Pourquoi Isabelle est là? Parce qu'une fois par mois, vous le savez peut-être, Accès Libre aime se spécialiser, se cantonner dans un thème. Et aujourd'hui, on voulait peut-être donner quelques idées à tout le moins pour les mois d'hiver, sinon, s'il n'est pas trop tard, peut-être pour les jours de vacances. Donc, pour ce faire, Steve Charbonneau va nous parler de certaines activités offertes par sa fondation. On va également voir ce que la CEPAC nous propose. Il y a de l'escalade accessible depuis moins d'un an, dit-on. Et avec Isabelle, on ira faire un tour du côté de Bruxelles, où elle a passé quelques jours pour causer tourisme international et ses accès. Et on va peut-être chicaner Air Canada. Madame Cham, on dirait que Air Canada, lorsque je regarde les articles de personnes en fauteuil roulant qui ont des mésaventures, on dirait que le nom d'Air Canada revient souvent. C'est une idée que je me fais ou malheureusement, c'est vrai?
Ben, je pense que c'est peut-être aussi parce que c'est la compagnie aérienne qui est la plus utilisée par les Québécois. Parce que je pense que, personnellement, j'ai eu des mésaventures et des très belles aventures avec à peu près toutes les compagnies aériennes, qu'elles soient canadiennes, américaines ou même européennes. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a un problème parce qu'il n'y a pas une spécialisation dans la manipulation des aides à la mobilité et ni dans l'aide aux personnes en situation de handicap, dans les déplacements, dans les aéroports et dans les avions. Donc, c'est de là que vient un peu la plainte. J'imagine que là, vous faites référence à... Vous avez eu l'idée avec la dernière plainte qu'on vient d'entendre parler.
Oui, entre autres, mais je regardais également ce que Catherine m'envoyait comme article en lien avec ce dossier-là, et Air Canada revient. Moi, je sais que j'ai eu du braille mal fait dans WestJet. C'était des abréviations anglaises pour du braille français. Donc, ça, c'est sûr que ça avait... Tu sais, pour les règles de sécurité, c'était pas très, très sécurisant.
Non.
Mais c'est bien moindre qu'un fauteuil roulant brisé lorsque j'arrive.
Oui, effectivement. C'est de là, pour moi, l'importance. S'il y a un recours collectif, tant mieux. Sinon, au moins de faire les plaintes. Parce que ça ne changera pas s'il n'y a pas de plainte. Parce qu'en faisant des plaintes, naturellement, d'abord, il va y avoir une accumulation de plaintes. Et ça va ouvrir les yeux, j'espère, des compagnies aériennes. Mais en faisant aussi des demandes de compensation financière, malheureusement, c'est des fois ça que ça prend aussi pour que les choses changent. En ce moment, je ne peux pas vous dire choisissez une compagnie aérienne plus qu'une autre. Tout ce que je peux vous dire, par contre, c'est que c'est très important, dès votre réservation, de mentionner vos besoins spéciaux, de mentionner si vous avez une aide à la mobilité, laquelle, etc. Mais c'est aussi important de, avant, si vous récupérez votre fauteuil roulant, même s'il semble parfait, regardez-le comme il faut. Puis, parce que c'est la responsabilité de la compagnie aérienne de payer ou de payer pour les frais de réparation, de trouver une aide à la mobilité temporaire si jamais il en faut une. Et trop peu de gens osent le faire. Donc, c'est important de le mentionner. C'est aussi, je pense, quelque chose qui va évoluer parce qu'il y a, justement, avec le temps, plus de gens qui voyagent et plus de gens qui revendiquent ces droits-là d'avoir un service équitable, comme vous disiez, avec votre braille qui soit compréhensible, etc.
Oui, je me souviens, le rappeler qui m'avait dit, Luc, faut que tu fasses une plainte. Puis là, je me disais, ben non, c'est la première année, je leur ai dit, je leur ai envoyé une lettre et tout, mais l'année suivante, je retournais chez ma mère et c'était encore le même document. Donc, je me disais, ah, zut, Linda Gauthier avait raison.
Oui, absolument. Et pour faire ces plaintes-là, vous savez que vous avez l'Office du transport du Canada qui est là pour vous accompagner. Et même chez Kéroul, vous pouvez appeler puis on va vous accompagner, vous dire quelles sont les démarches à suivre, etc.
Mais Isabelle, sais-tu s'il y en a eu des recours collectifs à travers le monde ou du moins des plaintes là, qui ont vraiment fait la une dans certains pays? Parce que ce que tu dis, c'est que c'est répandu. Et je me dis, ben voyons, c'est quand même... C'est pas comme des commis à l'épicerie où ces gens-là changent aux 3 mois. J'imagine que ce sont des emplois bien payés, des gens qui font ça pendant des années, des gens au bagage.
Oui, mais en fait, c'est qu'ils peuvent très bien se retrouver pendant, je sais pas moi, plusieurs mois sans avoir eu à manipuler un fauteuil roulant.
Ouais.
S'ils ont eu leur cours, tu sais, comment manipuler un fauteuil roulant, mais ils ont un modèle, peut-être deux, un manuel puis un motorisé. Fait quand ils arrivent devant un fauteuil roulant, maintenant, on le sait, là, ils sont tellement sophistiqués. Je pense qu'ils en oublient certainement des parties. Puis c'est pas eux qui reçoivent les plaintes. C'est des gens du service à la clientèle,
ouais,
etc.
Ouais.
Donc, ils sont moins au courant. Puis comme dans tout emploi, il y en a qui font très bien leur job, qui le font avec passion. Il y en a d'autres qui le font parce qu'ils ont besoin d'une paye puis qui aimeraient mieux être ailleurs. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même façon de gérer les choses. Puis ils comprennent pas tout le temps la différence entre manipuler une valise puis manipuler un fauteuil roulant et à quel point un fauteuil roulant peut être plus fragile.
Ouais. Un des problèmes ou un des dossiers, entre autres, c'était des batteries qui avaient été débranchées. On n'avait pas trop compris pourquoi le fauteuil ne fonctionnait plus. Ça a pris 2 jours avant que le mécanicien sur un bateau de croisière leur dise, mais les passagers de la croisière ont manqué 2 jours intéressants. Est-ce que c'est une habitude, ça, de débrancher des batteries de fauteuils motorisés?
Ce l'était avant,
okay.
Parce qu'avant, les gens avaient des batteries à l'acide et ça devait absolument être débranché et même retiré du fauteuil roulant.
Okay.
Maintenant, c'est des batteries au gel, donc il n'y a pas de problème. Moi, je sais où est le fil pour juste débrancher le petit fil sur le côté de la chaise. Donc, c'est définitivement un conseil à donner aux gens. Si vous savez où vous pouvez débrancher pour montrer aux gens, regardez, il n'y a plus de lumière qui s'allume sur mon fauteuil roulant, donc la batterie ne peut vraiment pas fonctionner. Donc, c'est quelque chose qui ne devrait pas être fait maintenant. L'autre chose qui ne devrait pas être faite et que j'ai vu malheureusement quelques fois, c'est un fauteuil roulant manuel sur le carrousel de bagages.
Oh, OK. Donc
oui, il y a encore des messages à passer, il y a encore des formations. Je pense que nous, ce qu'on a recommandé dernièrement, entre autres à Transat, c'est de faire des cours de rafraîchissement. Donc, oui, tu as eu ta formation, c'est-à-dire que tu as eu ta formation une première fois, peut-être que ce serait bon d'avoir un petit rappel une fois par année, les bonnes façons de manipuler les aides à la mobilité et les bonnes façons, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les mêmes gens qui vont m'aider, qui vont me transférer dans mon siège d'avion.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça aussi, c'est une autre histoire, là. J'en ai vu de toutes les sortes. Mais je pense que c'est important de continuer à voyager, leur montrer qu'on est là et que ça vaut la peine de faire un meilleur service justement pour pas brimer personne, mais pour aussi pas recevoir de plaintes parce que finalement, on finit par bien faire le travail. Et pourquoi pas en faire la promotion?
Ouais, ouais.
C'est qu'une compagnie décide, moi, je vais être celui qui va faire les choses bien. Venez voyager avec nous.
Dans la région d'Ottawa, il y a un centre de recherche sur les voyages aériens et je me demandais, ce que je comprends du centre, c'est qu'on fait tout comme si c'était un vrai voyage, sauf décoller. Alors, est-ce qu'il y a justement manutention des bagages? Est-ce qu'on forme les gens à ce centre-là?
En fait, pour l'instant, j'ai posé la question, j'ai pas eu de réponse pour l'instant. Mais pour l'instant, c'est vraiment au niveau des infrastructures. Est-ce que le siège est confortable?
Oui, non.
Pourquoi? Est-ce que
c'est
l'éclairage est bon? Beaucoup ça.
Ouais.
Un peu aussi dans la salle d'attente quand on va s'enregistrer avant de prendre l'avion, des choses comme ça.
Et sinon, toi qui es allé faire un tour au centre de recherche, c'est bien fait, c'est crédible, on peut espérer que ça serve à bon escient?
Je dirais que c'est assez impressionnant.
Ah, ouais.
J'ai été agréablement surprise. Tout ce qu'ils peuvent faire justement pour manipuler, pour simuler là, un petit avion, un peu plus gros avion, etc. Même le, au niveau, comme je vous disais, au niveau de l'éclairage. Je pense que la volonté est bonne. Mmh. Et des gens que j'ai vus parce que j'étais à l'ouverture, il y a déjà beaucoup d'intérêt de plusieurs compagnies de différents, soit ceux qui font les avions, soit ceux, les compagnies qui vont aussi utiliser les avions par la suite. Il y avait vraiment de l'intérêt de plusieurs sphères rattachées à l'aviation.
Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a différents modèles, mais il n'y a pas tous les modèles d'avions.
Ben en fait, je ne pourrais pas dire s'il y a, tout ou pas, okay. Mais c'est tellement manipulable, modulable, de la façon qu'on veut, plus haut, plus bas, plus pour l'intérieur de l'aéronef, que d'après moi, ça doit couvrir quand même une assez grande panoplie.
Bon, tu étais là, j'imagine, pour couper le ruban, mais est-ce que tu as entré, est-ce que tu as vu comment les formations se donnaient? As-tu servi de cobaye?
Non, en fait, pour okay. Tout ce qu'on a vu, c'est vraiment les installations, pas l'utilisation ouais. Des installations. Mais je trouve que c'est intéressant pour une fois qu'on se concentre non seulement, pas juste sur quelle grosseur d'avion qu'on veut, mmh, mmh. Mais quelle expérience on va donner aux voyageurs et qu'ils aient pensé à travers tout ça à l'accessibilité.
Et qui paye? Qui a subventionné, financé ce centre de recherche-là? L'industrie? Chaque compagnie mettait quelques dollars? Le public?
Je ne me suis vraiment pas penchée sur la question, mais j'aurais tendance à penser que majoritairement gouvernemental, parce que c'est un centre de recherche national. Mais bonne question.
Ouais. Mais ce que tu disais, c'est qu'il peut y avoir des gens de l'international qui viennent s'en servir.
C'est le but. Okay. C'est le but. Okay. Oui, il y a déjà un intérêt... des gens d'ici, mais des gens de l'international. Écoute, au prix, tu sais, ça a coûté quand même assez cher.
Ouais, 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 ouais.
Le prix m'échappe en ce moment, mais faut le rentabiliser.
Oui, c'est vrai. OK. OK. Excellent. Excellent. Jean-Sébastien me dit que notre prochaine invitée est déjà en ligne. Alors, pourquoi la faire attendre davantage? Aurélie Subert-Chicot, je sais que vous n'avez pas beaucoup de voix aujourd'hui, mais c'est très correct. Je veux dire, on vous prend comme vous êtes et on est content que vous soyez là parce que vous nous parlez d'escalade accessible aujourd'hui.
Oui, bonjour. Donc, vous allez bien m'entendre,
parce que
beaucoup de voix. Donc oui, c'est ça. Nous, on a lancé, en fait, il y a quelques mois, un organisme qui s'appelle Accès Grimpe, et qui permet de faire de l'escalade, de rendre l'escalade accessible pour les gens qui ont un handicap. Faut savoir qu'au Québec et au Canada, en fait, le paraclimbing n'existe pas au niveau compétitif, alors qu'il existe déjà partout dans le monde, avec des circuits notamment très structurés aux États-Unis ou en France, par exemple. Mais on a des grimpeurs aussi du Pakistan, de l'Inde,
ah, ouais.
de l'Allemagne, d'Angleterre, etc.
Okay.
Donc tout est à faire, c'est une belle page blanche. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens qui ont envie de grimper malgré un handicap, bah, qu'ils puissent faire de l'escalade intérieure ou extérieure.
Juste pour donner un petit congé, tiens, pendant qu'elle saute sa pastille. Isabelle, qu'est-ce que tu connais, toi, de Accès Grimpe? Parce que Catherine, la recherchiste, me dit « Ah, Luc, Isabelle est un peu familière avec l'organisme.
» En fait, je savais que Kéroul en avait déjà fait la promotion. On trouvait ça super intéressant. Le premier réflexe qu'on a est certainement pas de penser que l'escalade peut être accessible.
Ouais.
J'avais entendu parler, une fois que j'ai vu qu'il y avait ce centre au Québec, j'ai été voir un peu ce qui se faisait à l'international et j'ai été vraiment impressionnée de voir à quel point c'est...
On était en retard.
Oui,
ouais.
Oui, entre
ouais.
autres. Mais on est quand même loin aussi de la majorité des gens qui en font, je pense. Donc, c'est un peu normal. Géographiquement, les gens du Québec n'ont peut-être pas eu le réflexe ou n'ont pas connu ça aussi facilement, malgré le web aujourd'hui qui nous permet de découvrir plein de choses. Donc, c'est quand même impressionnant. Ce que je sais moins, c'est jusqu'où on peut aller dans le handicap. Je ne sais pas si on est capable d'avoir un...
Les limites, disons, de la sévérité dans ce que vous proposez, Aurélie?
Oui, alors en fait... Il faut savoir que l'IFSC, donc la Fédération internationale pour ses compétitions internationales de paraclimbing, a mis en place un système de catégories. Donc on a 5 catégories principalement qui sont les amputés de membres supérieurs, amputés de membres inférieurs, les personnes en fauteuil roulant, les personnes qui ont un handicap neurologique léger ou les gens qui sont aveugles. Donc ça, c'est les grosses catégories sur le circuit international. Mais nous, je vous dirais qu'on est prêt à accueillir un peu n'importe quelle personne qui aurait une limitation fonctionnelle, du moment qu'elle a suffisamment de tonus musculaire, au moins sur 2 ou 3 appuis, pour pouvoir se hisser sur le mur, parce que sinon ça va pas être très intéressant pour elle. Mais on a un système aussi de contrepoids qui permet quand même de pouvoir se lever assez facilement. Donc si la personne a des problèmes au niveau de la préhension, au niveau des mains ou au niveau du tonus musculaire, elle peut quand même se hisser facilement. Mais mettons qu'on veut quand même faire en sorte que ce soit intéressant pour le participant. Donc il faut qu'il ait quand même un minimum de tonus musculaire.
Il y a de l'escalade intérieure et extérieure.
Exactement.
Est-ce que ça a été difficile de trouver, parce que bon, comme Isabelle, tu le disais, c'est pas nécessairement quelque chose qui est très connu et très populaire au Québec, même pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, de vouloir subventionner un organisme comme ça, on pourrait se dire, ben, on va commencer par subventionner le hockey luge et le basketball. Est-ce que ça a été difficile de trouver des sous pour Accès Grimpe?
Ben en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir Mountain Equipment Co-op qui a été séduite par l'idée. Donc, c'est eux qui m'ont donné le 5 000 $ initial, qui m'a obligé quelque part à concrétiser l'idée que j'avais en tête depuis quelques temps. Donc, 5 000 $ m'ont permis de démarrer. Après, on a l'Association québécoise pour les personnes avec handicap, le loisir des personnes avec handicap, qui nous a donné aussi une subvention de 3 000 $ pour acheter du matériel, qui nous a permis d'acheter le système de contrepoids. Et on l'a de nouveau eu pour cette année. Donc, on va pouvoir acheter un deuxième système de contrepoids qu'on mettrait en place chez un gym partenaire, qui serait sûrement Horizon Rock d'ailleurs. Donc, finalement, les subventions, on en a eu. Pour l'instant, il n'y a personne qui va être salarié dans l'entreprise. C'est sûr, on fait tout ça à titre bénévole parce qu'on est investi et qu'on est motivé.
Ouais.
Mais les subventions, je vous dirais, est-ce que c'est facile d'en obtenir ? C'est jamais facile d'en obtenir, c'est certain. Mais on a de la demande et on a la chance aussi d'avoir l'escalade qui est une discipline en plein essor. Et le paraclimbing qui est de plus en plus croissant sur la scène internationale au niveau des compétitions, Coupe du Monde, Championnat du Monde. Donc je pense que le timing est bon pour qu'on puisse lancer ça. Et puis vu l'ambiance qu'on a dans les soirées, qu'on a déjà commencé à organiser, je pense qu'on a une demande, quoi. C'est juste qu'il faut la mettre en place et faire passer le mot pour que les gens soient au courant et ils viennent participer, tout simplement.
Est-ce que vous espérez régionaliser l'affaire de façon à ce que les gens de l'Estrie, les gens de Québec... les gens de l'Outaouais puissent en profiter également?
En fait, on a eu de la demande pour aller organiser quelque chose à Québec. Ce serait plus un événement privé,
okay,
avec un jeune homme qui a des besoins vraiment particuliers avec certains amis à lui, mais on en profiterait pour faire une première activité à Québec. Et puis, moi, j'avais rencontré une personne à Drummondville. Il faut savoir que Drummondville, c'est une ville qui se distingue vraiment par la qualité et l'engagement pour l'accessibilité des personnes ayant un handicap. Donc, il y aurait peut-être ça aussi. Mais après, notre champ d'activité, je dirais, il peut être régional du moment que les personnes arrivent à se déplacer. Et s'il y a de la demande quelque part, nous, on est prêts à se déplacer, quoi.
Ben, c'est ça, je me demandais, parce que, bon, tout de suite après vous, on parle à Steve Charbonneau, qui est le président-directeur général de la Fondation des sports adaptés. Lui qui fait plein de sports en Estrie. Est-ce que Accès Grimpe est, disons, une entreprise qui pourrait former des gens qui ensuite, eux-mêmes, pourraient offrir l'activité dans leur coin? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez?
Oui, c'est quelque chose auquel on pense, et notre équivalent aux États-Unis qui s'appelle Paradox Sport, c'est exactement ce qu'ils font. Ils offrent des formations aux salles qui souhaitent mettre en place ce genre de choses. Pour l'instant, les salles n'ont pas vraiment exprimé leur intérêt là-dessus. Mmh. Nous, on se déplace là-bas, c'est nous qui organisons. Mais je dirais oui, à terme, on aimerait organiser des formations, mais il faut que nous aussi, on puisse développer notre expertise pour qu'on soit crédible et qu'on enseigne quelque chose qui soit complet et correct. Donc pour l'instant, nous, on explore, on prend des informations en France, on prend des informations chez Paradox, mais avant de pouvoir se passer pour des gens qui sont capables de donner un cours, il faut que nous aussi, on puisse construire notre expertise. Donc notre objectif principal à l'année 1, je dirais, c'est plus accueillir le plus de monde possible, passer le message et développer notre expertise et faire en sorte que les gens s'amusent tout simplement et aiment se dépasser. Et après, peut-être d'ici 2-3 ans, oui, là, on pourra être à même de dire on est capable de vous faire profiter de notre expertise.
Puis, oui, vas-y, Isabelle.
J'avais juste une... Puisque vous avez commencé avec des subventions et que vous êtes tous des bénévoles, est-ce que vous avez déjà commencé à penser à comment vous allez être viable à long terme? Comment vous allez survivre? Vous ne pouvez pas être bénévole tout le temps, en tout cas, surtout s'il y a une plus grande demande.
Oui, oui, c'est sûr. Mais en fait, j'ai la chance d'être entourée d'un super CA. On est 5 personnes sur le CA. Donc pour l'instant, on est bénévole et on se répartit les tâches. Là, en fait, nos activités, c'est sûr, il y aura une grande part de subventions comme dans beaucoup d'organismes qui ont ce genre de mission. Mais on veut aussi se penser comme étant une entreprise qui a des revenus autonomes. Donc, l'idée, c'est d'avoir un profit à chaque fois qu'on organise une activité qui nous permet de payer un breveté ou de payer les déplacements quand on doit y aller. Ensuite, ce qu'on aimerait vraiment, c'est de diversifier nos sources de revenus, de ne pas dépendre juste d'une source, comme des subventions publiques, par exemple, comme beaucoup d'OBNL sont dépendants. Donc, on aimerait, oui, sûrement avoir une petite part de subventions publiques, mais aussi peut-être d'avoir de la commandite, d'avoir une campagne de sociofinancement. Mmh. On aimerait aussi avoir différentes sources de subventions, pas juste une qui serait gouvernementale. Donc, le but, ce serait vraiment de diversifier et aussi d'avoir des recettes autonomes qui seraient recueillies en fonction des activités qu'on organise, que ce soit les soirées grimpe, comme on organise à date, soit des événements privés, soit des organismes comme des camps de vacances ou comme des instituts de réadaptation qui nous contactent pour qu'on organise quelque chose avec leur clientèle.
Ben, en tout cas, bonne continuité. C'est sûr qu'on va rester au courant. On va même parler des activités lorsque celles-ci arriveront. Il y a quelque chose qui se passe durant le temps des fêtes ou c'est plutôt pour la nouvelle année?
Non, pour l'instant, on a terminé là, le vendredi avec notre dernière activité de l'année. Ça va démarrer, je ne sais plus les dates. On a regardé hier le calendrier avec les CA. Mais oui, on va faire de l'escalade intérieure et aussi, on va sûrement être chez Maïkan au mois de mars pour faire de l'escalade de glace.
Ben, bravo! Bravo, rien de moins. Rien de moins, Aurélie Subercico, présidente de Accès Grimpe. Merci beaucoup, Aurélie, et bonne tasse d'eau chaude avec du miel.
Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu.
Ça fait plaisir.
J'avais envie de te charmer, car pour moi tu es la plus belle. Je voulais me réinventer en cette fête de Noël. J'ai mis de côté mon cardigan et je porte mon col roulé bleu ciel. Je me suis même pris d'avance pour faire toutes mes emplettes. Au mois d'avril, j'ai eu ma chance, partout il y avait des rabais. Oublie le rouge, mon amour, cette année je t'aime en couleur pastel. Je t'offre un coco de pâte pour Noël, je t'offre un coco de pâte. Jalouse quand tu seras au septième ciel, en leur disant que ton époux maîtrise la peinture aquarelle. Je l'ai moi-même fait à la main en écoutant Patrice Bruel. Pas de biscuits en pain d'épices, pas de pyjama en flanelle. Chanel, je t'offre un coco de pâte pour Noël. Je t'offre un coco de pâte pour Noël. Un coco de pâte pour Noël.
Bleu Jeans Bleu sur Canal M, la radio de Vusez-Voix. Steve Charbonneau, si je pouvais, je vous demanderais, c'est bien beau de signer Eugene Lewis, mais est-ce qu'on a quelqu'un pour y lancer le ballon? Mais on n'est pas là pour ça. Ça va bien, Steve?
Oui, ça va bien, vous?
Oui, merci beaucoup. Steve, qui est directeur général de la Fondation des sports adaptés.
Exact.
Entre autres. Est-ce que tu as signé le contrat pour Cogeco ou c'est pas fait encore? L'année passée, quand je t'avais vu à ce temps-ci de l'année, c'était pas fait pour la saison suivante. Est-ce
ça se fait, ça se fait quelques semaines avant la saison.
Donc, on ne le sait pas encore.
Non, exact.
OK. Mais on ne sait pas non plus si eux ont les droits.
Oui, ça c'est réglé.
OK, ça c'est réglé.
C'est réglé là, 2-3 semaines, oui.
Bon. La Fondation a beaucoup d'activités en été. Vous faites du ski, vous faites bon, un paquet d'affaires. Mais il y en a aussi l'hiver. Bien sûr, il y a Owlshead.
Oui. Ça fait, en fait, on va, on est à l'aube là, de notre 25e saison de ski alpin adapté à AZ. C'est quand même le fun de savoir que depuis 25 ans, on a toujours des bénévoles, des participants qui sont là au rendez-vous hiver après hiver.
Est-ce que tu remarques s'il y a encore du nouveau monde qui, année après année, s'ajoute au groupe? Est-ce que tu es au courant de ça ou c'est la même gang, la clientèle?
Non, la clientèle change parce que nous, on est une école de ski à la base à AZ. Là, évidemment, je ne parle pas des autres programmes là, qu'on a à Bromont et on a aussi un service mobile. Là. On fait des montagnes pour donner le service à des montagnes qui n'ont pas nécessairement la formation pour offrir le ski adapté. Mais AZ, comme tel, c'est une école de glisse. Fait que nous, à la base, ce programme-là est pour essayer d'aider les gens à devenir le plus autonome possible. Et on a des histoires qui sont le fun, parce qu'une petite famille qui, le papa, suite à un accident de travail ou un accident de voiture, veut skier avec ses enfants, ben il faut qu'ils apprennent à skier avec un sit-ski, là, un appareil. Donc, nous, c'est notre objectif, c'est de les rendre le plus autonomes possible, puis qu'après ça, ben qu'ils puissent skier à leur montagne là, près de chez eux. Là.
Ouais.
Mais on a aussi une clientèle de gens qui viennent simplement profiter des plaisirs de l'hiver et juste de descendre les pentes avec le vent dans le visage et tout ça en compagnie, évidemment, de bénévoles certifiés. Puis on le fait en toute sécurité. C'est toujours plaisant. Là. On voit que des beaux sourires, mais il y a quand même, je dirais, là, pour répondre à la question, je dirais qu'il y a à peu près 20 à 30 de nos participants chaque année que c'est des nouveaux visages.
Mais moi, c'est Isabelle Duchamp. J'avais une petite question par rapport. Je sais que il y a quelques années, il y a quelques personnes dans mon entourage qui ont essayé de faire du ski, mais je me souviens pas à quel mont. Ils disaient que oui, il y avait du ski adapté, mais que les salles pour se changer, les toilettes, tout ça, c'était un peu complexe. Est-ce qu'il y a du travail qui a été fait là-dessus? Est-ce qu'on sait s'il y en a qui sont meilleurs que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui ressortent du lot?
T'as 30 secondes, puis on continue de l'autre côté.
C'est sûr que c'est une année de transition à AZ. Nous, on n'avait pas nécessairement ce problème-là pour se changer tout ça. Les toilettes étaient aussi adaptées. Mais c'est une année de transition parce qu'il y a des nouveaux propriétaires là-bas. Donc, il y a des réponses que j'ai même pas au moment qu'on se parle, que ça va être à découvrir dans les semaines à venir parce qu'ils ont investi beaucoup, beaucoup pour rénover. Donc, on va voir. Mais normalement, ces personnes-là ont la fondation à cœur. Donc, ils vont faire le possible ce qu'ils peuvent pour nous adapter puis pour qu'on ait quand même...
On s'arrête, on revient de l'autre côté, Steve, dans 2 minutes.
Vous écoutez Accès libre.
Je me suis entouré aujourd'hui de plein de sujets intéressants pour vous donner le goût, peut-être, soit pendant les fêtes ou pendant l'hiver, de bouger. Il y en a qui vont peut-être renouveler leur passeport, parce qu'avec moi, Isabelle Ducharme, elle, présidente du conseil d'administration chez Kérol, aime beaucoup voyager. D'ailleurs, on a parlé de mes aventures tantôt, mais il y a quand même de belles, belles aventures. On va parler de tourisme pour tous un peu plus tard à l'émission. Et pour les prochaines minutes, autant du côté de la CEPAC que ce que produit et fournit et propose la Fondation des sports adaptés, on regarde un peu ce qui s'offre pour les prochaines semaines, prochains mois, et c'est avec Steve Charbonneau, directeur général de la Fondation, qu'on en discute. Bon, Steve, on ne sait pas trop pour Owlshead. Est-ce que, je me posais la question, si quelqu'un veut prendre un cours de ski, un peu comme, tu sais, les petits pingouins qui vont à l'école de ski le samedi matin, bon, j'imagine que c'est chez vous où il y a des entraîneurs, appelons ça des moniteurs ou des instructeurs, dans les lieux réguliers qui maintenant ont été formés et peuvent donner des cours à des gens qui sont à mobilité réduite?
Oui, bien nous, en fait, on est tous membres de CADS Québec.
Oui.
Et CADS, l'Association canadienne des skieurs avec handicap.
Oui.
Donc, il y a des écoles de ski qui ont des instructeurs qui sont formés et qui ont quelques équipements. Et voilà, les gens peuvent consulter le site de CADS ou au moins CADS Canada pour savoir où au Québec il y a des montagnes comme ça. Mais sinon, dans les vrais programmes où c'est tous les samedis, exemple, pendant 8 à 10 semaines, je les connais pas tous. Nous, on en a un, il y en a un petit à Québec. Et il y a quelques montagnes dans les Laurentides qui l'ont. Et pour le reste, je les connais pas toutes. Ouais. Mais on peut consulter, on peut s'informer. Puis effectivement, il y a aussi des montagnes qui on peut tout simplement téléphoner, prendre rendez-vous avec l'école de glisse et voir s'ils ont le service. Puis des fois, ben, quand ils n'ont pas le service, ben, ils nous appellent. Et on y va, nous, avec notre unité mobile.
À part le ski, est-ce qu'il y a autre chose qui se passe chez vous l'hiver?
C'est exactement ce que j'allais demander.
Non, l'hiver, nous, c'est strictement le ski. On a, évidemment, on a beaucoup de privés. On a Bromont aussi qui s'est ajouté dans nos montagnes. Et fait que nous, entre Bromont, AZ, on est là beaucoup. On fait Chanteclair, on fait Offord, on fait Gleason. Offord, je l'ai mentionné. Fait qu'on se promène un peu partout. Donc, on n'a pas le temps ben de faire d'autres choses.
Ouais. Parce qu'il me semble du ballon-ballet en luge ou quelque chose comme ça, là.
Oui, on s'est fait approcher. Ben, en luge, du football contact.
Oui, ça aussi, oui, du rugby en luge, oui.
On s'est fait approcher pour peut-être démarrer le ski de fond adapté. Et nous, présentement, ça ne fait pas partie de nos plans parce qu'il y a quand même des gens qui en font. Puis c'est pas nécessairement quelque chose que quelqu'un... En fait, quelqu'un peut essayer le ski de fond adapté sans avoir un instructeur certifié, là. Il y a moins de danger parce qu'on est à plat, on est en campagne, puis on est dans les sentiers, mais il y a moins de danger qu'en ski alpin.
Mais parfois, c'est d'être en gang. C'est d'être ça, avec des gens qui vivent la même réalité que nous, qui se sont fait faucher par ci ou par ça, puis...
Ben, c'est exactement ça. Nous, c'est sûr qu'on est... On est à la base un programme qui 95% de nos étudiants, ou à peu près, c'est des skieurs assis. On en a qui sont debout aussi. On a des non-voyants. On a différents types de ski, trois tracks, quatre tracks. Mm-hmm. Mais il reste que à la base, c'est ça. C'est aussi je dirais que le ski est peut-être même juste un prétexte pour pouvoir se retrouver en gang, puis profiter de l'hiver, puis d'avoir une raison de sortir de chez soi l'hiver. C'est pas toujours évident en fauteuil, pour les personnes en fauteuil roulant, de pouvoir sortir puis d'apprécier la slush, mais au moins en sachant qu'au bout de ça, ben il y a un AZ, un Bromont ou autre, puis qu'on les attend avec des équipements, puis qu'on skie en gang, c'est vraiment le fun.
C'est justement, je me disais tantôt, on parle de ski adapté depuis quelques minutes, mais on n'a pas vraiment expliqué comment on peut l'adapter. Dans un cas comme le mien où je suis tétraplégique, donc je bouge à peine les bras, je sais que je peux être assis et quelqu'un d'autre va diriger les skis. Mais est-ce que dans l'équipement, ça inclut aussi, là, tu sais, j'ai pas de soude de neige, moi, là. Est-ce que vous avez aussi tout ce qu'il faut pour que les gens puissent être au chaud ou il faut arriver avec nos équipements? Comment ça fonctionne?
Ben nous on fournit tous les équipements matériels, là, mais pas l'habit de neige.
Pas le vêtement, oui.
Pas le vêtement. Mmh. Par contre, quelqu'un qui effectivement a besoin d'un casque, on a les casques, les lunettes de ski aussi. Et des mitaines au besoin, mais l'habit de neige, ben il y a différents types de physique. Là, on ne serait pas capable d'avoir un habit de neige pour fournir à tout le monde, mais ça appartient aux participants. Puis au niveau des équipements, ben, comme je disais, là, nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher le plein potentiel de l'étudiant. Donc, quelqu'un comme toi, par exemple, si on voit que là, l'équipement que tu parlais, dont tu faisais référence, c'est probablement le tandem ski de Tessier, mais si tu es capable quand même de bouger un petit peu, nous, on a acheté un snow kart, on est le premier au Québec à l'avoir. Et ça, ben, ça donne quand même la sensation que tu contrôles le sit-ski si tu es capable de bouger juste un petit peu les bras ou les mains. Mais sinon, effectivement, on essaye vraiment d'adapter l'appareil aux capacités physiques ou de la personne. Parce que on veut pas... le tandem, pour nous, c'est quasiment un service de taxi, là. Mais c'est le fun quand même parce qu'on descend, on dévale T'sais, on descend.
Moi, j'ai vécu un peu la même chose quand j'ai fait mon saut en tandem en parachute. Je ne pouvais pas diriger le parachute moi-même, mais quand même.
L'expérience est là. Oui,
c'est ça, tu vis quand même. Là, comme là, tu vas descendre, tu vas voir le vent dans le visage pareil. Puis pour les personnes non-voyantes, il y a une façon de fonctionner. Est-ce que vous le faites également aussi?
On le fait également. Puis nous, notre formation des niveaux 1 CADS, c'est de 1 à 4. Et on l'inclut. Nous, on inclut tout ce qui est autisme, handicap visuel, physique et il m'en manque un. Donc on est formé pour faire ça sans problème. Puis c'est même un bon exercice pour nous parce que quelqu'un justement qui a un handicap visuel, la communication est très, très importante.
Ouais.
Il faut pas minimiser cette communication-là non plus avec quelqu'un qui voit, mais qui est à sa première expérience en ski. Fait qu'il faut pas assumer que ces gens-là connaissent ce qu'on fait. C'est nouveau pour eux autres. Fait qu'il faut communiquer.
Moi, je voudrais pas faire de ski. Moi qui vois pas, je voudrais pas faire de ski avec quelqu'un qui est pas habitué. Là, ça, c'est évident. Est-ce que maintenant, en terminant, quand vous descendez avec une personne aveugle, il y a des casques d'écoute où on est encore à crier dans l'air libre, puis l'autre le suit?
Ça, c'est une drôle question. Ben, pas une drôle question. C'est une très bonne question, mais c'est la réponse qui... nous, on en a des casques comme ça, mais on doit les changer.
OK.
Puis on n'a pas cette clientèle... Ben, cette clientèle-là, c'est pas fréquent.
Oui, je comprends.
Donc, Luc, il faut y aller pour qu'il développe ça.
Oui, mais...
C'est ça. Mais nous, on avait fait cet investissement-là. On avait peut-être 6 casques comme ça.
Mm-hmm.
Puis on les utilisait pas assez souvent.
Je comprends.
Puis là, on s'est retrouvé qu'il faut renouveler notre flotte de casques. Fait qu'on s'est rendu compte que... Parce qu'on en a fait l'année passée. Puis on a une proximité avec la personne. Donc, on crie pas.
Mm-hmm.
On parle. On est tout près. Puis c'est correct aussi.
OK. Ouais. Merci beaucoup, M. Charbonneau. Bonne fête à toi.
Bien, pareillement. Merci beaucoup.
Et Fondation des sports adaptés, allez sur le site pour voir les dates, les activités, les montagnes et tout et tout. Et nous, il n'y a pas que du ski. On va regarder ce que la CEPAC propose après M. McCartney.
And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here. That only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time.
The party's on, the spirit's up. We're here tonight, and that's enough.
Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time.
C'est drôle, Jean-Sébastien, parce que, bon, j'entends, là, c'est très bien ficelé, très bien produit, mais on dirait que les gens qui sont avec M. McCartney sont pas des gens qui font ça à temps plein tout le temps, chanter a cappella. Qui sont les ceux qui chantent avec lui?
Ceux qui ne font pas ça à temps plein, ouais. C'est la formation Straight No Chaser, ont quand même plusieurs albums sous leur boucle. J'ai choisi cette pièce-là parce que tu m'as mis la puce à l'oreille tantôt en me disant qu'une information que tu avais entendue sur l'argent que M. McCartney fait à chaque année avec cette pièce-là, eh bien, je dois te donner raison.
Oh non! Ben, j'espérais avoir tort!
400 000 $ par année en royauté pour cette pièce-là, donc depuis l'enregistrement original 1979, ça fait un peu plus de 15 millions en poche uniquement pour cette chanson.
Il y a combien d'accords dans cette pièce-là?
Il y en a plusieurs qui sont d'accord pour dire que c'est pas une des meilleures compositions de McCartney, mais quand même, elle a fait ses preuves, elle traverse le temps et à chaque année, on la réentend encore. Et elle a été reprise, il y a plusieurs artistes qui l'ont repris, mais ce ne sont pas des versions que je suis habitué d'entendre. Ouais. Hilary Duff, que je pourrais nommer tous ceux qui l'ont repris, bref.
C'est là qu'il va chercher son argent avec ceux qui l'ont repris.
Ben moi, ça me donne des idées de projet pour mes prochaines années, là.
Je comprends. Simon Boivin, êtes-vous un fan de Wonderful Christmas Time ou vous êtes tanné de l'entendre, vous?
Moi, ça va assez bien, mais je trouve assez intéressant ce que vous racontez parce que j'entendais récemment là, que Mariah Carey, elle, c'est 600 000 $ par année qu'elle reçoit avec les royautés sur sa chanson « All I Want for Christmas is You ». Donc,
c'est même pas la sienne.
C'est un peu plus que pour M. McCartney.
Ah, c'est fou. Puis en plus, « All I Want for Christmas is You » est même pas, alors que McCartney, au moins, c'est une composition originale. Aïe, aïe, aïe. Combien Marie-Michel va-t-elle chercher avec ses disques, mais le marché étant plus petit? Vous êtes responsable des relations avec les médias, vous, pour la Société des établissements de plein air du Québec. Simon Boivin, on a parlé beaucoup de ski avec Steve Charbonneau, mais il y a autre chose qu'on peut faire l'hiver, même si on est à mobilité réduite.
Ben absolument. À la CEPAC, vous savez, on est fortement engagé envers l'accessibilité de nos sites pour l'ensemble de la population québécoise. On pense que c'est des endroits où les gens peuvent aller et que c'est bon non seulement pour la santé physique de faire de l'activité de plein air, mais aussi pour la santé psychologique, juste aller prendre un bon bain d'air à l'extérieur. Et il y a différentes activités qu'on peut faire dans les parcs nationaux, même les réserves fauniques, lorsqu'on est une personne à mobilité réduite. Plus spécifiquement, en hiver, je vous parlerai de la pratique du skivel. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un skivel.
Isabelle?
Oui.
Ah oui, hein?
Bon, donc.
Moi, non.
Bon, pour ceux qui ne le savent pas, ça se trouve être un appareil qui a un manche, imaginez-vous à peu près un espèce de manche de pelle, qui est relié à deux skis sur lesquels on peut installer une chaise roulante.
Okay.
Et donc, il y a une personne qui peut pousser la personne en chaise roulante dans un certain nombre de sentiers qui sont accessibles. Et on a un appareil comme celui-là dans 6 parcs différents. Et ils sont disponibles gratuitement, là. Donc, on les prête sans frais. Vous pouvez en trouver au Parc national du Bic, au Parc national du Mont-Orford, mais plus près de Montréal, Parc national du Mont-Tremblant, des îles de Boucherville, du Mont-Saint-Bruno et à Oka également.
Okay.
Donc, c'est une option intéressante.
Pour réserver d'avance ou...
On peut réserver. L'idéal, c'est de donner un coup de fil au parc, disons, la veille, pour dire, écoutez, je prévois y aller demain. Est-ce que vous en avez un, dans le fond, de disponible? Donc, à ce moment-là, ils peuvent vous le mettre de côté pour éviter une mauvaise surprise. Un autre appareil qui...
Le skivel, je l'ai juste mentionné pour les gens qui nous écoutent. C'est vraiment une option très intéressante parce que souvent, on doit se transférer, quand on parlait tantôt du ski adapté, du ski alpin, il faut se transférer dans le siège qui n'est pas le nôtre, donc qui n'est pas moulé à nos besoins. Alors, dans ce cas-ci, on peut rester dans son propre fauteuil roulant. Donc, c'est beaucoup plus confortable comme expérience.
Et exactement. Et à Oka, il y a un autre type d'appareil qui peut-être se rapproche un peu plus de ce que vous venez de décrire. C'est l'hippocampe que vous connaissez peut-être aussi. Et qui, à ce moment-là, effectivement, il faut se sortir de sa chaise roulante et de s'installer dans l'hippocampe, qui est une espèce de chariot qui se pousse à 3 roues et sous lesquels on met en hiver, on peut installer des skis et donc on peut se promener en sentier l'hiver. L'avantage qu'il a, lui, c'est qu'il est aussi utilisable l'été lorsqu'on enlève les skis. Les roues sont assez larges pour qu'on puisse le pousser non seulement sur la plage, mais aussi aller dans l'eau avec lui.
C'est ça, Isabelle. Moi, tu m'en avais parlé comme outil pour aller sur le bord des plages ou dans l'eau, mais je ne savais pas qu'on pouvait aller dans la neige.
Oui, d'ailleurs, moi, je l'ai utilisé. Je suis allée au Parc national d'Oka, ma fête, il y a quelques années. Et j'avais utilisé l'hippocampe pour pouvoir participer avec les enfants à une chasse là, sur la plage. Mmh. Donc, j'avais pu me promener avec eux. Alors que sans l'hippocampe, j'aurais été obligée de rester sur les berges puis les regarder s'amuser au loin.
OK. Donc, l'hippocampe également pour l'hiver.
L'hippocampe également pour l'hiver. Puis, au cas, puisque vous en parlez, c'est vraiment une destination intéressante pour les gens à mobilité réduite, puisque au-delà du skivel et de l'hippocampe qui peut s'utiliser été comme hiver, il y a aussi deux chalets compacts qui sont vraiment adaptés pour les personnes à mobilité réduite, avec des rampes d'accès, des salles de bain adaptées, un lit escamotable pour avoir plus d'espace. Donc, ces chalets-là peuvent aussi être loués l'hiver et donc on peut séjourner dans le parc et le vivre plus qu'à travers une activité quotidienne.
Mon souvenir du chalet compact, c'est qu'il était très de base, là. Est-ce que ça veut dire qu'en hiver, c'est chauffé?
Oui, vous pouvez le louer en hiver, absolument. Et,
c'est chauffé. De quelle façon? C'est un chauffage électrique? C'est au bois?
Bonne question. Généralement, dépendamment de l'établissement, mais il y en a parfois que c'est un chauffage au diesel, mais à Oka, je mettrais pas ma main au feu, mais je vous dirais que ça devrait être à l'électricité, là. Mais je pourrais vérifier pour vous donner la réponse avec certitude, mais à Oka, il y a une multitude de chalets qui sont à l'électricité, là. Donc,
Simon, je vous entendais la semaine dernière à l'émission Les Capés avec Michel Bédard du côté de Québec parler qu'on essaie toujours d'offrir et d'être le plus patient possible pour que les chalets accessibles puissent servir à des gens qui ne peuvent utiliser que ce type de chalet-là. Maintenant, exact. C'est quoi la limite de temps? C'est-tu 2 semaines, 2 mois?
Il n'y a pas de limite de temps en tant que tel. En fait, c'est la disponibilité. La façon dont ça fonctionne, ce que j'expliquais à Michel la semaine dernière, c'était que, par exemple, les deux chalets compacts qui sont adaptés à Oka, il y a aussi pour l'été des prêts à camper qui sont plein pied, là, donc directement, il n'y a pas de marche, on peut y aller directement. Ces tentes-là ou ces hébergements-là, on les garde en disponibilité, on ne les loue qu'en dernier recours pour des gens, disons, qui sont pas des gens à mobilité réduite. Donc, on les conserve aussi longtemps que possible jusqu'à ce que, par contre, quelqu'un puisse on soit rendu là dans la liste des hébergements à louer et que quelqu'un, on lui offre. Parce que sinon, il y aurait aussi des risques que ces hébergements-là restent non occupés.
Ouais. Donc, les fêtes, on peut présumer qu'il est quand même trop tard.
J'aurais pu vérifier avoir.
Non, c'est correct.
Je jetterais un œil. Écoutez, il y a beaucoup cette idée-là là, qu'à la CEPAC, les choses sont louées d'avance puis que c'est difficile d'avoir de la disponibilité. Ça vaut toujours la peine d'aller faire un tour sur le www.cepac.com parce que on a souvent. Il peut y avoir des annulations, mm-hmm. Il peut y avoir des surprises. Donc, je serais curieux d'aller vérifier. J'aurais dû prendre la peine de le faire avant de vous appeler pour voir si.
On a parlé quand même du skivel puis de l'hippocampe puis des chalets, mais est-ce qu'il y a vos sentiers qui existent que les gens peuvent utiliser pour aller visiter les différents parcs? Est-ce qu'il y en a que vous savez qui sont quand même faciles à utiliser pour une personne en fauteuil roulant en hiver?
Il y en a différents. En hiver, comme je vous dis, avec le skivel ou l'hippocampe, c'est plus facile. Juste en chaise roulante, là, ça devient... C'est plus compliqué, on déneige au mieux, mais j'aurais de la difficulté à vous dire allez-y sans crainte de vous embourber à quelque part. Il y a toujours possibilité que ça soit pas parfait, mais par exemple, pendant la saison estivale, il y a une multitude de sentiers en poussière de pierre, il y a même des trottoirs de bois à bien des endroits. Puis si vous, à nouveau, allez sur le site Internet, dans la section accessibilité du site de la CEPAC, c'est intéressant parce que on a non seulement notre plan d'action à l'égard des personnes handicapées, dans lequel on regroupe l'ensemble de nos objectifs pour le réseau, mais on a aussi un document qui s'appelle la liste des mesures favorisant l'accessibilité.
Okay.
Et ça c'est mis en ligne à chaque mars de chaque année. Et là, par parc, vous allez pouvoir voir quels sont les équipements adaptés et les efforts qui ont été faits pour faciliter l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, là. Que ce soit en matière d'accessibilité universelle, des rampes ou des sanitaires adaptés ou encore des stationnements réservés, des aires de jeu ou des endroits plus facilement accessibles. Donc, pour les gens qui ont envie de sortir, puis je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, puis que c'est une belle sortie, puis les parcs nationaux, c'est à tout le monde, donc c'est important que chacun se les approprie. Ça vaut la peine d'aller jeter un œil à ce qui peut être fait.
Si quelqu'un veut aller, je sais pas moi, au BIC, puis veut savoir qu'est-ce qu'il y a comme accessibilité là, est-ce qu'il peut aller juste sur le site, comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde, de l'information sur le BIC, ou il doit absolument se référer aux documents dans la section accessibilité et nos efforts?
Bien, l'idéal, ce serait d'aller dans le document sur l'accessibilité parce que là, tout est regroupé, alors que dans l'offre d'activité, par exemple, sur le site Internet, ils sont un peu plus épars les endroits où c'est indiqué, alors qu'on a un endroit pour avoir l'information regroupée en un seul et même lieu. Donc,
mais vous comprenez que c'est pas la moyenne du monde qui vont penser d'aller voir le plan d'action pour chercher à quel endroit il peut aller. Puis que ça va être accessible. Alors que si c'est disponible sur le site de façon générale, c'est plus facile.
Mais j'imagine que si je vais sur le site du parc du BIC, il y a un onglet accessibilité.
Il y a un onglet accessibilité. Au bas à droite, ça va être l'onglet accessibilité pour tout le monde. Je vous recommande aussi, si vous avez quelques minutes, d'aller sur Google et de taper 12 sorties simples et sans tracas pour les personnes à mobilité réduite. On a fait un blog dans lequel on regroupe une douzaine d'activités auxquelles les gens pensent pas nécessairement, mais qui sont aussi accessibles et faciles à faire pour les gens à mobilité réduite. Je pense à des visites à l'Astrolabe, au parc du Mont-Mégantic. On a nos établissements, là, parc de la Chute Montmorency, aquarium, tout ça est pensé pour que les gens puissent avoir accès soit avec des ascenseurs ou qu'il n'y ait pas de marche. Donc, il y a toujours des efforts, vous avez raison de le souligner, à faire dans la manière dont on présente l'information, puis ça fait partie des mesures qu'on a dans notre plan d'action de faciliter l'accès non seulement aux établissements, mais aussi à l'information. Il y a des gens qui travaillent là-dessus de manière à ce que ce soit plus simple pour les gens qui cherchent cette information-là de la trouver rapidement.
Ouais. Ben c'est ça, c'est qu'à la fois on veut des activités, on veut des locaux et des équipements accessibles, mais on veut être capable de le savoir.
Absolument.
Puis vous voulez qu'on le sache parce que tant qu'à faire tout ça, évidemment que vous voulez que ça serve.
C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est qu'on a tout à gagner. Ouais. On a tout à gagner à ce que les gens se prévalent de ce qui a été pensé et construit spécifiquement pour eux. Là.
Je vous souhaite de belles vacances, Simon Boisvert.
Ben,
Simon Boisvin, pardon.
Pas de problème, merci.
Simon qui est responsable des relations avec les médias à la Société des établissements du plein air. Isabelle, on va vous réinviter, hein?
Ben oui, on n'a pas eu le temps de parler beaucoup de ce que Kéroul a fait en 2018, et donc
parlez-moi de l'hiver et de Kéroul et du Québec. C'est quoi votre nouvelle affaire là, depuis 2 ans, le Québec pour tous, c'est-tu ça?
Exact. En fait,
est-ce qu'il y a de l'hiver dans le Québec pour tous?
Bien sûr. Okay. On va justement parler des activités de ski, de traîneau à chien, de toutes sortes d'activités qu'on peut faire.
Il y en a-t-il encore du traîneau à chien parce que Aventure, il n'existe plus? Comment il s'appelle?
Je l'ai pas moi non plus en ce moment en tête.
Mais vous savez ce que je veux dire, vous étiez allé.
Oui, mais je vais vérifier.
Et il n'existait plus, alors je me demandais s'il y avait d'autres endroits où on pouvait faire du traîneau lorsqu'on était en fauteuil roulant.
Mais n'oubliez pas aussi qu'on parle beaucoup d'activités extérieures, mais pour les gens qui sont un peu plus frileux comme moi, il y a plein d'activités aussi qu'on peut faire qui sont à l'intérieur, qui sont bien adaptées. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut s'encabaner, rester à la maison. Il y a plein de musées. On oublie que les maisons de la culture offrent beaucoup d'activités gratuites. Autant si vous êtes plus bricoleux ou si vous êtes plus m'asseoir, écouter un concert, une pièce de théâtre. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se faire sans dépenser.
Et vous, là. Mais je suis d'accord, c'est mon genre d'activité, mais... les chenaux, il y a du chenaux pour personne en fauteuil roulant.
Du chenaux?
Ouais, les poissons des chenaux. Je sais que c'est en mars, là, mais il me semble que j'ai déjà entendu qu'il y avait des gens qui étaient dans leur petite cabane en fauteuil.
Écoutez,
avec leur trou.
Moi, je vous avoue que j'ai entendu des amis ou des connaissances qui sont allés, mais à quel point c'était bien adapté ou ils se sont adaptés au lieu, ça, c'est une autre histoire.
Ouais. OK. Hey, merci d'être là, puis on va te réinviter, Isabelle. Ça, c'est certain, parce qu'on veut savoir ce qui s'est dit à Bruxelles, à savoir ce Destination pour tous, deuxième édition. On veut également,
programme d'accessibilité et d'établissement touristique.
On va faire un petit retour avec Benoît lorsqu'on revient le 7 et on va faire, disons, les faits saillants du handicap en 2018. Alors, en janvier, on reviendra sur ce programme-là.
Ça me fera plaisir.
C'était bon de te voir. J'espère qu'on va prendre le même transport. Jean-Sébastien, bonnes vacances. Parce que, ben, toi, tu continues à travailler. Moi, j'ai fini.
Ben, merci, Luc.
Puis, ben, on sera là le 7, comme le chant de Beaudommage. Salut tout le monde, profitez-en. Et ceux qui sont abonnés au balado, restez là, on a petit quelque chose pour vous, pour les gens de Québec, tout comme ceux qui nous écoutaient sur le site en rediffusion. À tout de suite ou à l'année prochaine.
Joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Tigu, on se reverra le 7 janvier.
Alors on continue, ben oui, parce que d'abord, il y a quelque chose d'étrange et d'important qui est arrivé du côté de Québec, mais ça ne porte pas ni sur le tourisme, ni sur le loisir. Voilà pourquoi on le met en appendice pour les abonnés du balado. Le transport adapté de Québec a presque arrêté de fonctionner pour quelques jours parce qu'il y a eu un virus informatique, il y a eu des pirates qui sont entrés dans le système et ça a vraiment causé des ennuis à beaucoup, beaucoup de monde. Et Michel Bédard de l'émission L'Écapé sur les ondes de CKIA FM à Québec a parlé à Alain Mercier, qui est directeur du réseau de transport de la capitale, et justement lui demandait « Qu'est-ce qui est arrivé au système de réservation du STAC? »
Bon, essentiellement, on entend tous dans les nouvelles à travers le monde qu'il y a des situations qui arrivent dans des entreprises, des cryptovirus qui se promènent. Essentiellement, c'est, il appelle ça des robots informatiques qui se promènent sur l'Internet, qui essayent de rentrer dans des entreprises ou dans les courriels de particuliers. Et essentiellement mettre un virus qui se répand dans des systèmes informatiques, qui navigue dans les systèmes informatiques pour les encrypter et dans ce cas ici, et dans la majorité des cas, demander un genre de rançon. Alors, c'est une situation qui malheureusement existe à travers le monde. Et on a été impacté par un genre de cryptovirus qui s'est répandu durant la nuit dans tous nos systèmes. Comme vous savez, on travaille 24 heures par jour. Et à la prise de service du matin, essentiellement, on avait tout perdu. Donc, alors, on est dans un processus de rétablissement de nos systèmes d'informatique. Comme vous pourriez juste imaginer, il faut qu'on soit extrêmement prudent de revenir. Il y a plusieurs étapes. Un, c'est de revenir sécuritairement, qu'il n'y a pas d'autres traces de virus dans les systèmes. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, on a mis en place notre plan de relève qui est essentiellement travaillé manuellement. Et troisièmement, on est dans un rétablissement des opérations normales avec une autre équipe pour aider à l'approche. Donc, c'est un processus qui faut être très méticuleux parce qu'on ne veut pas être réinfecté.
Vous parlez de trois étapes cruciales actuellement. Est-ce que ces trois étapes-là se font en même temps ou si c'est séparé? Et si c'est séparé, à quelle étape en êtes-vous en ce mercredi après-midi à 16h18?
Non, c'est des activités en parallèle depuis que ça a commencé lundi. On travaille sur les trois fronts. L'importance, c'est le maintien de service. Donc, le premier élément, comme vous savez, avec le transport adapté, l'information de chaque client est critique pour la sécurité et d'assurer la livraison de transport avec le soin nécessaire pour la personne qui est notre client. Alors, on a mis beaucoup d'efforts présentement dans la communication et ça, c'était un de nos grands problèmes. On a perdu tout notre système de téléphone, donc qu'on a rétabli et que là, on est dans le processus qui est très manuel. On travaille étroitement avec l'industrie du taxi qui nous a prêté un peu leur système temporairement pour les prises de réservation depuis ce matin. Et ça qui nous a aidé beaucoup à augmenter le nombre de déplacements qu'on peut faire dans une journée.
Normalement, vous êtes à peu près, on va dire, un chiffre rond à 3000 déplacements par jour. Depuis lundi, selon ce que j'ai entendu dans les médias et même sur le communiqué, vous étiez à peu près à plus ou moins 1500. Vous dites qu'actuellement, vous êtes les compagnies de taxi vous ont prêté leur système. Combien vous pensez être capable de faire de déplacements une journée comme aujourd'hui avec ce système-là?
Bon, présentement, on devrait réaliser à peu près 1200 déplacements. En termes de le volume normal, comme vous avez dit, il y a à peu près 3000 déplacements par jour. On a pris la décision pour la protection de sécurité de nos clients que les clients qui sont affectés par une défaillance intellectuelle ou des difficultés cognitives, on a pris la décision pour assurer leur sécurité de demander cette clientèle-là qu'on ne pouvait pas les transporter parce qu'on n'a pas les données nécessaires pour assurer la sécurité. Donc, en communication avec le CRDI, on leur a demandé d'annuler les activités. Donc, ils représentent à peu près 50% de la clientèle des déplacements dans une journée régulière. Donc, des 1500 déplacements qui restent, qui sont de tout autre mode pour le travail, avec une clientèle qui a plutôt une mobilité réduite et non une déficience cognitive. Aujourd'hui, on a atteint environ 1200 déplacements. Le compte n'est pas fini, là. Mm-hmm. Alors, c'était pour nous autres, c'était une amélioration assez importante. Mais c'est sûr, on n'est pas au niveau normal et on sait qu'il y a des clients qu'on ne peut pas desservir aujourd'hui. On sait que ça c'est difficile, que ce soit pour les familles ou pour les individus qui ont des activités qui s'attendaient, qu'on ne peut pas tous les satisfaire. Mmh. Alors, on espère, notre plan, c'est de revenir à la normalité, aux opérations normales à partir de lundi, mais on fait tous nos efforts entre-temps. Mmh.
Monsieur Mercier, je suis avec Olivier Colondéram, mon collègue et collaborateur à l'émission.
Bonjour.
Qui a une question.
On se connaît très bien. Bonjour, Olivier.
Oui, qui a une question.
Moi, j'avais une question. C'était, et je sais que ça ne changera peut-être pas grand-chose pour les gens, mais à court terme, mais est-ce que vous avez déjà envisagé le remboursement pour des personnes qui ont un laissez-passer mensuel? Est-ce que ça fait partie des options? Je me semble que parfois, quand il y a une grève importante du RTC ou d'un transporteur, il peut y avoir un remboursement de titres de transport. Ou est-ce que là, comme c'est un cas de force majeure, c'est pas dans les scénarios encore?
Bon, c'est sûr et certain, un petit peu le programme de cette semaine, tous nos efforts, c'est dans le rétablissement de service. Je vais vous dire, dans la situation où on s'est trouvé, avoir une bonne visibilité de le temps pour revenir en service normal est un petit peu inconnu. Alors, au moment qu'on est présentement, on s'attend d'être en retour lundi, mais à tous les heures, la situation évolue. Et donc, je pense qu'on va maintenir tous nos efforts pour la remise de service, puis après ça, on va regarder et discuter avec la clientèle pour voir la situation, puis on va prendre les décisions nécessaires. Je veux vous dire, on fait des efforts. On reconnaît aussi, c'est une période de l'année où, par exemple, il y a des activités familiaux, des activités organisées autour de Noël. C'est une de nos préoccupations aussi. Souvent, pour des individus, c'est leur seule grande sortie de la saison. Alors, on a des demandes spéciales pour aider certains groupes. Pour des activités, on essaie de les accommoder pour la fin de semaine, mais on va les prendre un par un.
Est-ce que, justement, ceux qui ont des activités de soir? Parce que depuis le début de la semaine, vous parlez que vous priorisez les études, le travail et le médical. Quelqu'un qui aurait, exemple, un souper en soirée ou une activité en soirée quelconque, adapte à vie pour nommer celle-là, par exemple, est-ce que ces personnes-là peuvent espérer être desservies étant donné qu'il y a moins d'études, de travail et de médical, ou c'est vraiment que ces trois secteurs-là qui sont desservis jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire possiblement lundi?
Bon, essentiellement, depuis le début, puis je pense la clientèle, je parlais avec les préposés aux appels aujourd'hui, et la clientèle, ils comprennent là, que on est dans l'incapacité. Ils comprennent que dans certains cas, ils nous appelaient pour dire, bon, j'aimerais aller au magasin où j'ai une activité. Et après avoir discuté, essentiellement, on leur a demandé de est-ce que c'est possible de le remettre ou attendre. Alors, c'est sûr, cette semaine, on a pris l'option de limiter les natures de déplacement. Je peux vous dire aujourd'hui que, oui, on aurait pu accepter plus de demandes d'appels, mais on était à la limite d'essayer de programmer dans une journée. Et on voulait pas être dans une situation d'annuler de la clientèle parce qu'on n'avait pas l'assurance d'être capable de programmer tous les déplacements durant la journée. Les équipes travaillent 24 heures par jour presque présentement, là. C'est très manuel. Et on veut assurer quand même une qualité de service, surtout dans le cas que c'est des personnes qui ont le moins d'opportunités et moins d'alternatives. On veut pas mettre nos clients à risque, qu'on peut pas les ramener en état de sécurité et aussi pas laisser quelqu'un pris dans une situation où on peut pas les ramasser à temps. Mm-hmm. Alors, c'est un peu, on voulait prendre les précautions nécessaires, donc c'est limité aux trois raisons de déplacement, le travail, médical et éducation.
Olivier, je pense que tu avais une autre question concernant Wendy.
Oui, ben, écoutez, M. Mercier, je pense que vous avez été mis au courant de l'intervention d'une utilisatrice du transport régulier. Wendy, qui est passée à la radio hier matin, pour relater une situation, je pense que malheureusement, qui est connue du RTC, des difficultés liées au personnel chauffeur. Moi, j'ai écouté l'entrevue, je l'ai trouvée assez représentative. Quelqu'un me disait ce matin que pour pallier au problème du stack, il a pris le risque de prendre l'autobus en fauteuil roulant. Rendu à destination, le chauffeur lui a demandé « Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez que je vous déplie la rampe pour descendre ou... ?» Bon. Donc, ce que Wendy racontait hier, c'est malheureusement une réalité, je dirais peut-être pas quotidienne, mais trop fréquente. Mm-hmm. Michel, qui se déplace en fauteuil, le vit aussi. Et je voulais savoir, vous, en interne au RTC, et puis vous le savez, ça fait partie d'une réalité, d'ailleurs, à Montréal, à Ottawa, je dirais un peu de partout, malheureusement. Et est-ce que... Face à cette nouvelle qui est sortie, comment est-ce que le RTC envisage réagir, surtout dans un contexte où notre transport adapté ne fonctionne pas? Est-ce qu'il est temps de dire aux chauffeurs, écoutez, c'est là, il serait peut-être temps là, de le faire au moins cette semaine pour que ceux et celles qui ont une alternative, même si elle n'est pas terrible avec le déneigement et l'état des trottoirs, mais agenouiller l'autobus, là, enfin, attendez que les gens soient placés avant de redémarrer, est-ce que ça fait partie de vos plans aussi au RTC?
Oui. Bon, c'est sûr, je discute pas des cas particuliers de chaque client, mais je pense votre point et je pense M. Bédard, on en a parlé dans notre dernier appel. Mmh. Il faut qu'on passe à une autre étape. C'est sûr et certain, on juge que le niveau de service qui est offert dans notre industrie a un grand chemin à faire. OK, je vous raconte, je pense, pas rien de nouveau. Il y a l'aspect de l'équipement qu'on utilise pour transporter notre clientèle a besoin d'être adapté aux besoins de la clientèle, que ce soit, par exemple, non seulement des fauteuils, mais des triporteurs, des quadriporteurs. Il faut qu'on soit capable d'offrir un niveau de service dans des standards établis, qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Donc ça, on attaque ce dossier-là. Deuxièmement, donc, l'équipement, les véhicules, c'est un souci très important pour nous. À faire la transition à des véhicules qui vont accepter pas juste un fauteuil roulant, mais on a déjà fait l'annonce qu'on veut aller pour deux places. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, si vous avez bien identifié, c'est qu'on est dans une ville que nécessairement la forme urbaine n'est pas nécessairement adaptée pour tous les clients. Alors, on a un deuxième défi. Les rues, la configuration des trottoirs, les zones d'arrêt, et on fait un gros travail à ce niveau-là pour l'accessibilité, comme je pense on se connaît très bien, c'est pas juste le véhicule, c'est se rendre à l'arrêt et être capable de monter dans l'autobus. Alors ça, on a un deuxième travail à faire. Mais vous avez bien identifié, c'est aussi le virement dans la culture de l'industrie. Et je pense que c'est un discours qu'on a au RTC, qu'on a un grand pas à faire au niveau de comment servir un client qui devient plus en plus diverse et qui a des besoins particuliers. Donc, il faut qu'on adapte nos façons de faire pour l'ensemble de la clientèle. Alors, on est très transparent et très ouvert qu'il faut qu'on prenne ce chemin-là. On a débuté avec certains travaux. En effet, le programme pour assurer que les fonctionnalités de l'autobus soient mises à disponibilité du client, par exemple, abaisser le véhicule, déployer la rampe. C'est tous les éléments que présentement sont connus par l'ensemble de nos employés, mais c'est nouveau. Mm-hmm. Alors, il y a une adaptation à faire, il y a de la formation à poursuivre, il y a plusieurs étapes qu'on va mettre en place. Vous avez notre engagement, on l'a défini dans notre plan stratégique, on travaille sur notre nouveau plan d'accessibilité, notre engagement sur les prochains 5 ans, de rendre le réseau beaucoup plus accessible, pas juste en termes des investissements, mais au niveau du comportement et la qualité de service et l'expérience client pour tous nos clients. Mm-hmm. Alors, on va, je pense, vous allez participer. Mm-hmm. Des tables de travail. On va déposer un plan détaillé avec des actions concrètes au gouvernement du Québec au cours de l'année 2019. Et là, vous allez voir des engagements fermes et concrets avec des actions, avec des dates et avec des politiques qui vont être mises en place. Alors, je sais que je vous donne un petit peu, peut-être moins des réponses concrètes sur des éléments particuliers, mais je pense, je m'en cache pas quand on dit on a du travail à faire.
Donc, ces engagements-là que vous allez prendre en 2019 vont éventuellement aider une clientèle à mobilité réduite à prendre l'autobus régulier, ce qui fait que ça va diminuer les impacts advenant une panne potentielle au stack.
Bon, je pense qu'on va concentrer et assurer qu'on ne revivra pas l'expérience.
Oui. À la base, oui, effectivement.
OK, je pense qu'on va se concentrer sur ça. J'ai annoncé ce matin et hier, on a fait la même annonce, qu'on a pris la décision qu'on va transférer et héberger l'ensemble des systèmes informatiques du stack. Comme vous savez très bien, le stack, c'est un OBNL. Il y avait leur système indépendant et tout ça. Et je pense, l'investissement qu'on a fait au RTC, on a pris la décision d'offrir l'hébergement de tout l'ensemble des systèmes du stack à l'intérieur de notre périmètre TI, où on a investi massivement dans les dernières années pour sécuriser notre environnement et qui fait ses preuves. Alors, on travaille avec l'équipe. C'est l'équipe du RTC, l'équipe de TI présentement, les spécialistes en sécurité et en informatique qui travaillent au stack présentement, des longues heures, puis on va assurer que on va offrir les services du RTC pour le futur. Donc, ça va ça va aider à stabiliser la situation pour pas qu'on revit un environnement manuel et pas qu'on a besoin que notre clientèle trouve d'autres solutions à part de un service qui est fiable et régulier pour leur quotidien.
Donc, excuse-moi, Olivier, le temps file.
J'avais juste peut-être une information que j'ai appris récemment. Vous pouvez aussi nous confirmer que l'année prochaine, le système de gestion du stack qui était prévu pour être mise à jour, une mise à jour importante, je pense. Vous allez aussi aller de l'avant avec cette mise à jour importante, donc qui va permettre plusieurs améliorations au niveau de la livraison de services, puis je pense aussi des réservations et peut-être même des systèmes de confirmation, votre véhicule s'en vient, des choses comme ça.
Absolument. C'est un engagement qu'on a. On a une équipe qui va débuter les travaux. C'est aussi une nouvelle génération du logiciel qu'on utilise qui va être déployé bientôt. Alors, on veut prendre avantage des nouvelles modifications qui ont améliorations qui ont été apportées. Et c'est sur la liste de programmes de travaux pour 2019-2020.
Okay. Eh bien, je résume. Retour à idéalement 100% à partir de lundi.
Et c'est notre objectif.
C'est l'objectif. Sinon, travail, études et médical seront desservis. Pour le reste, ben soyez patients, on va attendre à lundi.
Puis restez au fil auprès des médias, c'est très important. C'est durant la journée, chaque fois que on fait des petites modifications au niveau de la qualité de service, on va faire des annonces pour que la clientèle soit au courant que si on revient un petit peu plus vite ou on est capable de bonifier le service. On va l'annoncer pour que la clientèle reçoive les bonnes nouvelles avant lundi, si possible.
Oui, puis aussi, si je ne m'abuse, si les gens, les lignes sont trop engagées au stack, ils peuvent aussi faire le 627-2511 poste 1 pour
c'est
pouvoir
bien
parler
ça.
À et quelqu'un.
C'est ça. Et ceux qui ont un ordinateur à main son, c'est sûr et certain, ils pourraient aller au stac.ca et il y a une nouvelle formule de réservation en ligne pour les clients existants du RTC. On a débuté ça hier soir comme moyen temporaire jusqu'à temps que le système revient par son entier. Là. Okay. Alors, il y a trois méthodes. Le stack, le RTC et aussi sur le site web.
Monsieur Mercier, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Et de mon côté, un gros merci à Michel Bédard et à CKIA de nous permettre de vous tenir au courant de ce qui se passe du côté de Québec. D'ailleurs, abonnez-vous au CAPÉ, diffusé en direct tous les mercredis sur les ondes de CKIA. Moi, je suis abonné, alors je l'écoute à loisir. Et c'est un peu comme Accès libre, mais avec différents sujets. Il n'y a pas trop d'émissions qui traitent de la déficience, quelle qu'elle soit, de la mobilité réduite. Et nous, on le disait et on le répète. Passez une belle période des fêtes. On se repose et on se retrouve en 2019.